Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, bienvenue sur la route inconnue dont c'est aujourd'hui la dernière ligne droite avant les vacances, mais vous nous retrouverez fidèles au poste dès le mois de septembre pour de nouvelles aventures poétiques. La poésie de langue française se porte bien, il faut le dire haut et fort et le faire savoir partout où l'on va. C'est bien l'objet de cette émission que de faire connaître la poésie qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui. Vous retrouverez au fil de la présente édition les chroniques de Claude Verset, Cécile Guivarch et Patrick Jockel. Mon dernier invité de la saison, quant à lui, s'appelle Jacques Morin. Il est l'alter ego de Jacques Mau, fondateur et directeur de la revue Décharge, notre partenaire privilégié. Et nous en sommes fiers car, pourquoi ne pas le dire, eh bien Décharge est aujourd'hui et depuis des années la revue incontournable sur papier, celle à laquelle on s'abonne de préférence, celle aussi où l'on a envie d'être publié lorsqu'on est un jeune poète contemporain. Le problème de Décharge, c'est qu'elle laisse peu de temps à son directeur pour se consacrer à sa passion première, l'écriture. C'est pourquoi nous nous précipitons sur les livres de Jacques Morin chaque fois qu'il en paraît un. C'est le cas aujourd'hui avec « Le bord du paysage » que viennent de publier les fort belles éditions de la Renarde Rouge. Jacques, bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui en tant qu'auteur. C'est difficile de trouver du temps pour écrire lorsqu'on cornaque une revue telle que Décharge. Est-ce que vous êtes obligé de réfréner vos envies ou êtes-vous, de toute façon, un auteur rare, quelqu'un qui n'écrit et ne publie qu'avec parcimonie lorsque ça urge, si j'ose dire?
Oui, enfin, on va dire comme ça que j'écris finalement assez. Et j'écris même beaucoup, puisque en même temps que La Renarde Rouge, ce recueil qui vient de sortir, il y en a deux autres qui sont sortis, un petit recueil chez La Porte qui s'appelle Douzaine, et puis un gros chez Rhubarbe qui s'appelle J'écris, ou est repris cette fois pas mal de chroniques que j'ai écrites sur 40 ans. Donc quand on me dit, comme c'est le cas, que j'écris peu, en réalité j'écris beaucoup. Alors c'est vrai que le côté poésie, le côté poétique, le côté poème est quelquefois un peu, on va dire, mineur, selon le cas, parce que c'est vrai que la revue dans laquelle je chronique davantage me prend beaucoup de place et de temps, et a beaucoup d'importance. Et puis, on va dire que quand j'écris des poèmes, comme c'est le cas par rapport à ce recueil qui vient de sortir à La Renarde Rouge, on va dire que j'écris par période, par saccade. Et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est que quand je fais le choix de Décharge, qui est important pour la revue, je suis très exigeant par rapport un peu au texte que je garde, et j'élimine beaucoup de choses qui me semblent pas vraiment fondées, pas vraiment creusées. Alors, je suis encore plus exigeant pour moi-même. Hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc, c'est pour ça que quand j'écris, je suis très vigilant à ce que je garde me semble intéressant.
Ouais. Est-ce que la chronique et la critique, c'est un art à part entière aussi?
Oui, bah, c'est quand même de l'écriture. Quand je dis j'écris, c'est quand même au sens large. Alors, c'est vrai qu'on peut faire différentes strates. Hein, il y a la chronique, l'article, l'édito, ce que j'appelle l'intro, la critique. Mais la critique, c'est extrêmement important. Ben, je ne vais pas forcément dériver là-dessus maintenant, mais moi, je lis des auteurs avec lesquels je rentre souvent en phase. Et à ce moment-là, ça me donne, moi, beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, finalement. Et j'écris à propos de quelque chose, mais j'écris sur quelque chose. Et donc, c'est de l'écriture également.
Ouais. Alors, avec ce livre publié à La Renarde Rouge, j'en rappelle le titre, hein, Le bord du paysage, vous renouez avec le dehors, le monde naturel, le paysage, ou plus exactement le bord du paysage, et pas n'importe quel paysage, mais celui qui s'offre aux habitants de l'Yonne. D'ailleurs, votre livre est sous-titré « Poème d'Yonne ». Il vous paraissait important de le préciser?
Oui, alors c'est un petit peu, je dirais, pour le situer au point de vue des paysages, en effet, puisque le titre le prend, ce mot « paysage ». Mais à l'intérieur, si on lit bien, il y a autre chose. Il n'y a pas que les paysages, que le sport, d'ailleurs, enfin, la course un petit peu, puisque ça se passe à l'extérieur. Il y a aussi d'autres éléments qui viennent d'ailleurs dans la poésie qu'on retrouve d'une façon antérieure. Mais je trouvais que c'était intéressant de voir un peu l'homme confronté à l'extérieur qui reste immuable. Lui, enfin, le poète, l'homme en général, il bouge, il change. Il a ses humeurs et il est plaque en quelque sorte sur ce paysage qui finalement n'a pas beaucoup de changements, et selon le cas, selon la saison également, malgré tout le paysage change aussi, c'est intéressant un peu de trouver des impressions, des sentiments, des émotions.
Alors, vous êtes traditionnellement, si j'ose dire, un poète de l'intériorité, des conflits intérieurs, voire de la difficulté d'être. On l'a vu dans le précédent recueil « Sans légende », publié chez Rubart, mais vous êtes aussi le poète d'un lieu, ça s'appelle la Puisaye-Forterre, que vous arpentez à pied et à bicyclette, c'est-à-dire physiquement, voire sportivement. Et là, je me réfère à un autre livre publié il y a quelques années au carnet du Dessert de Lune, Poème sportif en Puisaye-Forterre. Est-ce qu'inscrire sa vie et son écriture dans un paysage en particulier, c'est évident pour vous?
Oui, alors donc là, c'était un peu, je continue un peu ma réponse précédente. La Puisaye-Forterre, c'est dans l'Yonne, donc c'est un peu, ça s'inscrit un peu au même endroit. Et je pensais que c'était pas inutile d'essayer d'écrire par rapport à quelque chose qui existe, puisque c'est le cas, par rapport à un paysage qui change également, mais qui est bien celui dans lequel je vis, je m'inscris. Voilà, je m'inscris, c'est exactement ça. Et quand j'écris, j'essaye un petit peu que ce paysage, il transpire un peu à travers mes pages. Alors c'est vrai qu'il y a le côté sportif, il y a le côté physique, qui me semble intéressant, puisque quand l'inspiration me vient à ce moment-là, je suis en activité. Hein, je suis en train de marcher, en train de courir, etc. Mais de nouveau, je répète que dans le recueil en question, j'ai voulu aussi qu'il y ait d'autres choses, d'autres éléments, d'autres pages, qui sont mineures, hein, si on veut dire, par rapport à l'ensemble, où on retrouve un peu des choses que j'ai fait dans Sans légende, par exemple des textes sur la nuit, des choses comme ça, qui étaient déjà inscrits dans des recueils antérieurs, qui étaient plus, justement, dans l'intériorité.
Oui. Alors, comme précédemment dans les fameux poèmes sportifs dont je parlais à l'instant, on vous voit donc en mouvement, vous le disiez, dans ce livre, mais donc il ne s'agit en aucun cas d'une contemplation immobile hein, du paysage. Vous vous coltinez le relief, vous bouffez des kilomètres, on entend votre souffle parfois, on vous sent tenter de perdre à haleine.
Oui, alors là, ce que je disais un petit peu tout de suite avant, c'est j'essaye un petit peu de ne pas rester dans la contemplation. Ça peut se faire, hein. Derrière la fenêtre, je regarde, bon, ça peut être un peu dans le contemplatif, mais quand je cours, il y a quelque chose qui est important, c'est l'apnée. On se libère totalement, et on est dans le souffle, on est dans le corps, mais c'est un peu une alliance entre le corps, justement, qui d'un seul coup est en action, et le mental qui se libère, qui se soulage, et donc, quelquefois, les images viennent à ce moment-là, où on n'y prête pas attention, mais elles sortent d'elles-mêmes, et j'essaye de les garder en mémoire, parce qu'évidemment, j'ai pas mon crayon ni mon carnet sur moi en courant. Donc, quand je reviens, si j'ai le bonheur d'avoir gardé ça en mémoire, je peux transcrire un peu ces impressions.
Ouais. Alors, en vous lisant, on a comme l'impression que ces randonnées sportives, au même titre que la poésie d'ailleurs, sans doute, sont une course contre l'angoisse, contre les oppressions nocturnes qui vous assaillent. Vous en parliez justement à propos de Sans légende. Je voudrais juste vous lire page 23, donc du bord du paysage. La nuit gère, de labyrinthes mentaux en dédales cervicaux, le sommeil abonde, fausses pistes et faux semblants, masques et camouflages sont de circonstances, réalité minée, vérité travestie. Au matin, je me retrouve égaré, éperdu, hagard. On a vraiment l'impression que vos nuits sont tourmentées.
Oui, pas toutes, heureusement, mais disons que là, j'ai essayé de transcrire à nouveau les moments d'insomnie. Hein. Et j'avais fait un peu la même chose dans une partie complète de Sans légende qui s'appelait Les encres de la nuit, où j'essayais un petit peu, finalement, non pas de travailler sur des textes en courant ou en faisant du vélo ou autre chose, et là, cette fois, dans les insomnies, un petit peu en gardant en mémoire, pour le matin, des choses qui venaient d'une façon presque automatique et facile, et justement, quelquefois, qui se perdaient aussi bien, parce que quand on dort quand même, malgré tout, le matin, on n'a pas forcément en mémoire les choses qui sont venues dans la nuit.
Alors, tout à l'heure, on parlait de la difficulté pour un revuiste de trouver du temps pour écrire, mais vous nous avez montré à quel point vous écrivez. On voit que quand vous n'écrivez pas, c'est une souffrance pour vous. Vous le dites, page 12, écrire fait du bien, ce peut être mauvais après coup, mais sur l'instant, écrire fait du bien. Ne pas écrire fait du mal, ce n'est pas si grave, mais pour longtemps, ne pas écrire fait du mal.
Oui, alors j'ai écrit ça, enfin, finalement, c'est pas tellement à mon propos, parce que j'entends beaucoup les gens, les poètes autour de moi, bon, puisque j'en fréquente pas mal, évidemment, qui sont toujours mal quand ils n'écrivent pas. Et j'avais envie de... Bon, ce petit poème est venu un petit peu en réfléchissant un petit peu à ce nombre de fois que les gens qui n'écrivent pas se sentent mal à l'aise, enfin, se sentent mal. Et ce qui n'est pas mon cas, puisque de toute façon, en réalité, j'écris tout le temps. Si ce n'est pas des poèmes, ce sont des chroniques, ce sont des critiques, etc. Donc je n'ai pas ce souci, je pense. Mais je pense que les gens qui sont vraiment poètes, à savoir qu'ils n'écrivent que de la poésie, bon, avec des moments où ils ont des problèmes d'inspiration, d'écriture, sont mal, parce qu'ils n'ont pas justement ce... Moi, c'est un peu dans le sport, quand j'en fais pas, je ne suis pas très bien forcément, mais par rapport à ces gens-là, donc c'est un peu le manque d'écriture qui les rend mal à l'aise. Ouais.
Bon, il n'y a pas que de l'angoisse dans ce livre, hein, bien au contraire, il y a même des moments de grâce. Rien ne peut arriver, dites-vous, l'instant est éternel, cette éternité de l'instant, c'est un peu ce qu'on éprouve lorsque, enfant, on joue à un jeu, on joue aux billes, au ballon. C'est aussi peut-être la source de l'émotion poétique. Je pensais, en vous lisant à d'autres vers, signés Jean Follin, « Dans les champs de son enfance éternelle, le poète se promène qui ne veut rien oublier. » Est-ce que c'est ça, un peu ?
Alors, il y a ça, il y a un petit peu l'enfance, bon, parce que c'est vrai que, bon, la nature, etc., on se retrouve un peu dans l'enfance. Et puis il y a autre chose, il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est le fait que l'âge avançant, et heureusement la santé est encore là, je pense que j'apprécie mieux la vie à sa juste valeur. Je me souviens très bien que j'ai fait une revue antérieure à Décharge, donc il y a une quarantaine d'années maintenant, qui s'appelait Le Désespoir précisément. Et j'étais un petit peu dans une sorte de logique un peu noire, un peu sombre de la vie. Et là, j'ai complètement évolué là-dessus, puisque maintenant, je pense qu'il faut finalement profiter un peu des instants que l'on a encore.
Ouais. En tout cas, comme vous n'êtes plus un enfant, vous vous gardez bien de vous dire... éternel, c'est l'instant qui est éternel, pas vous. Vous dites de vous, je suis éphémère à répétition, avec beaucoup d'humour d'ailleurs.
Oui, bah c'est ça, c'est un peu une leçon d'optimisme que je me donne à moi-même et peut-être un peu aux autres si c'est nécessaire, puisque je pense qu'il faut qu'on profite un peu de ce qu'on a et chaque instant. Là, je viens de lire justement un recueil de Marie-Claire Bancard. Au castor astral, qui a manqué de mourir, qui renaît en quelque sorte, et bon, bah, d'un seul coup, bah, elle retrouve beaucoup de choses, et je pense que pour elle, cette résurrection, quand même, enfin, un plaisir, un bonheur.
Ouais. C'est ce que disait Michel Serres souvent lorsqu'il dit, dans Genèse, l'homme d'œuvre naît vieux et meurt jeune, vous vous reconnaissez là-dedans ?
Voilà, exactement ça. Une sorte d'inversion des choses, un petit peu, c'est bizarre.
Ouais.
Ou de rééquilibrage, d'ailleurs.
De rééquilibrage. Jacques, merci beaucoup de vous être livré à ce jeu des questions-réponses. Et maintenant, place au livre, bien sûr, Les bords du paysage, poème d'Yonne, publié aux éditions de La Renarde Rouge, dont je vais lire quelques extraits à présent. Jacques, merci beaucoup et à très bientôt, à la rentrée pour de nouvelles chroniques. Hein.
Exactement, merci Christophe.
Lumière rasante, le soleil tranche l'horizon, pièce dans la fente. L'herbe crispe son vert, je rembobine la route au milieu, jonchée de terre sèche. Rien ne peut arriver, l'instant est éternel. Je suis éphémère à répétition, éphémère à ressort. On rentre dans le soir radieux, prêt à tout. 40 corneilles dans le champ, postées près des tertres de taupes et sur les branches glabres d'arbres implorants. Une seule envolée. Au loin derrière les collines, le ciel masse des nuages vaguement hostiles. De même, sans trop savoir pourquoi, une inquiétude sourde pince le cervelet. Gardez la vue. Image à enregistrer de force dans la cervelle, en dehors de mille autres aussi ordinaires. Persistance rétinienne forcée dans la mémoire du moment qu'on oubliera sans doute un jour. La vision coule, cinéma permanent des yeux, les mots habillent à toute vitesse, comme un sous-titre, les images brutes, rush du regard quotidien. Deux inspires, tap à tap, deux expires, tap à tap, la course contre le souffle, foulée, la course contre le vent, foulée, technique éprouvée du mouvement pour isoler la pensée libre, délester et finir hors d'haleine. Écrire fait du bien. Ce peut être mauvais après coup, mais sur l'instant, écrire fait du bien. Ne pas écrire fait du mal. Ce n'est pas si grave, mais pour longtemps, ne pas écrire fait du mal. Quai de gare, des milliers d'adieux, des milliers de retrouvailles, une constellation d'émotions invisibles dans l'air, sur le quai soudain déserté. La nuit se mange elle-même, immobile. Autant elle ronge ses anneaux, autant elle s'allonge interminable. Pas de délivrance ni d'éclaircie, jusqu'au petit matin miraculeux. Rêvassé à la fenêtre, paysage imposé dans le cadre, toujours différent. Camion de lait, marche arrière vers l'étable. La neige fait du pointillisme blanc, obstination délicate, gracile, parfaite. Posté, on surveille le silence. Piscine ocre. Image diffractée, derrière les lunettes de plongée, son sous l'eau alternatif, lumière du soleil à travers les baies, le corps compte les longueurs d'un bord l'autre à perpétuité. Conseil, se changer les idées. Prendre ses opinions, ses convictions, ses vérités et les transformer radicalement. Repartir différent, nouveau. Pas facile. Se dissoudre dans la nuit, éteindre cette dernière veilleuse du bout du monde, du bout de soi, ce promontoire d'ombre au-dessus du vide de l'espace, effacer cette lueur de conscience tremblotante et plantée en plein milieu du front. La neige poinçonne l'espace méticuleusement, flocon par flocon, une solidarité de fourmis, et soudain tout se tient. Le brouillard efface pas après pas, gomme le champ à grands traits de silence. On endosse sa prison comme un scaphandre en respirant à peine. L'impression vague d'avoir fait le plus gros, l'essentiel, pas forcément bien, mais fait quand même, et qu'on peut disparaître d'un coup. Et l'impression d'avoir raté ici ou là, et c'est tant pis. Un peu cynique, un peu désabusé, selon les jours. L'impression d'être vain, inutile, et en cela mortel. Le désespoir ne sert à rien. Reste l'attente du pire. Je fais mes courses, au loin une forme, une ombre, un contour. On imagine en s'approchant un homme ou un renard figé. En fait, un arbuste, une pierre, un taillis. L'illusion a joué, plein mirage. La nuit gère de labyrinthes mentaux en dédales cervicaux. Le sommeil abonde, fausses pistes et faux semblants. Masques et camouflages sont de circonstances, réalité minée, vérité travestie. Au matin, je me retrouve égaré et perdu, hagard. Courir à fond, n'être attentif ni au souffle ni aux jambes, et penser exclusivement à autre chose dans une apnée de l'esprit, concentré dans le mouvement qui fonctionne ras du sol. Les colzas, de part et d'autre de la route, me font une haie de soleil. Si tu me poses la question « Où est-ce que tu étais durant ma vie ?» je ne saurais quoi te répondre. Les champs retournés versent leur peau de terre, la lumière confère un aspect brut au paysage cerné de forêts, résonance médiévale en pleine campagne, rien n'a bougé depuis des siècles. Les oiseaux ne suivent pas de mode. Les éoliennes ont bondi sur la colline, lépidoptère métallique, fleurs à tiges raides, boutons trois pétales. On s'arrête à passionnément. Film SF en pleine campagne, protectrice et menaçante, fixée dans le paysage à jamais. L'eau pluviale, dans les gouttières et les tuyaux et les égouts, et la rivière coule et coule dans un sens. Les troncs débités en planches dans la scierie stridente. Petite leçon de choses pour un enfant et découverte du vivant pour l'abîmer de soi. Comment imaginer notre globe ordinaire au milieu d'astres millionnaires, notre petit peu, notre quasi-rien, presque poussière. On relativise difficilement. L'écart est abysse et le tournis fatal. Mon cœur bat la campagne, je cours en face à face, ma solitude frontale contre les éléments liés. Les grues s'en vont, escadrilles de cris, elles tourbillonnent au-dessus de ma tête. VW ne connaissent que deux lettres, ces grands oiseaux qui s'en vont, longilignes, ailes battantes, bec bavard. Elles ne se prennent pas dans mes cheveux. Abandon de l'hiver et du froid, migration vers le sud, évasion vers le rêve, quand reviendront-elles? L'aigle du silence et du chagrin, de la mélancolie et du désarroi. Les grues s'en vont au loin, leurs cris s'estompent déjà.
Voilà, c'était donc des extraits du dernier livre de Jacques Morin paru aux éditions La Renarde Rouge, Le bord du paysage, poème d'Yonne avec des illustrations de Joël Brière. Voilà, je vous propose d'écouter à présent un peu de musique et vous retrouverez ensuite une petite surprise, je ne vous en dis pas plus.
To Get Happy de Guy Lafitte. Voilà. Je vous ai annoncé une surprise tout à l'heure. La voici. Il y a quelques temps, nous nous sommes rendus au lycée Fulbert. C'est à Chartres. Lycée Fulbert où, sachez-le, la classe de seconde, en tout cas une classe de seconde, s'intéresse de très près à la poésie, notamment au haïku. Et je suis allé, il y a quelques temps, faire un petit atelier de haïku. J'ai pas eu grand-chose à faire, d'ailleurs, sinon leur dire deux, trois mots et les faire sortir dans la cour pour en ramener un ou deux haïku. Qu'ils ont travaillé ensuite, ils en ont choisi un et ils vous les lisent à présent. Ce sont leurs productions, leurs haïkus et probablement d'autres viendront peut-être l'année prochaine. Nous verrons. En tout cas, c'est déjà beau ce qu'ils ont fait. Je vous propose d'écouter les haïkus de la classe de seconde de Madame Chantal Vinet, professeure au lycée Fulbert.
Salomé le lièvre. Un automobiliste engagé, un cycliste effrayé, la mort face à lui. Un automobiliste engagé, un cycliste effrayé, la mort face à lui.
Thomas d'Auvergne, pénurie d'essence ou manque de reconnaissance, nous voici sans lui. Pénurie d'essence ou manque de reconnaissance, nous voici sans lui.
C'est Migul. Suis-je une étoile, quelque chose me remplace et cela me déplaît. Suis-je une étoile, quelque chose me remplace et cela me déplaît.
Riyad Benhamed, partir à la recherche de framboises mûres, mais revenir avec des cerises rouges. Partir à la recherche de framboises mûres, mais revenir avec des cerises rouges.
Claire Houzé, sans elle, tu n'es que ce que tu n'es pas. Sans elle, tu n'es que ce que tu n'es pas.
Clarissa Folleville, mille et une pattes et pourtant que mon doigt pour t'abattre. Mille et une pattes et pourtant que mon doigt pour t'abattre.
Lucie Bergerie, de majestueux corbeaux, des cris de désespoir, une nouvelle saison. De majestueux corbeaux, des cris de désespoir, une nouvelle saison.
Laurie Bigot, je marche dans les escaliers, l'inspiration n'est pas arrivée, le temps s'est écoulé. Je marche dans les escaliers, l'inspiration n'est pas arrivée, le temps s'est écoulé.
Rousseau Nicolas, je cours sur le terrain, au loin j'entends le train, le professeur me réveille. Je cours sur le terrain, au loin j'entends le train, le professeur me réveille.
Ouda bouche courte, quatre murs, six entrées, je suis seul. Quatre murs, six entrées, je suis seul.
Emma Darien, modeste barque bleue, long périple en mer, couché de soleil si nombreux. Modeste barque bleue, long périple en mer, couché de soleil si nombreux.
Mariana Veloso Grassa, un nuage passe lentement sur la dune d'un ciel ardent. Un nuage passe lentement sur la dune d'un ciel ardent.
Thomas Margot, l'écriture ne vient pas, sur mon chemin je suis seul. L'écriture ne vient pas, sur mon chemin je suis seul.
Thomas Martinez, tu es à la fois douce et sauvage, comme la mer et la montagne, tu es le plus beau des paysages. Tu es à la fois douce et sauvage, comme la mer et la montagne, tu es le plus beau des paysages.
Anne Saïf, il fait jour, j'ai mal au crâne, il fait nuit. Il fait jour, j'ai mal au crâne, il fait nuit.
Mathilde Massé, les herbes s'envolent, dans ce chaud printemps, ma vie s'illumine. Les herbes s'envolent, dans ce chaud printemps, ma vie s'illumine.
Eva Roland, sur son lit d'hôpital, il se meurt, un oiseau s'envole. Sur son lit d'hôpital, il se meurt, un oiseau s'envole.
Jason Dadon, j'observe la fenêtre qui donne sur l'herbe et la liberté. J'observe la fenêtre qui donne sur l'herbe et la liberté.
Lucas Picou, la porte s'ouvre, passage du coq à l'âne. La porte s'ouvre, passage du coq à l'âne.
Jules Péculier, une feuille de l'inspiration, un chef-d'œuvre. Une feuille de l'inspiration, un chef-d'œuvre.
Mathéo Charotte, le vent souffle, les feuilles planent, elles ne tombent pas. Le vent souffle, les feuilles planent, elles ne tombent pas.
Paul Leger. Mon reflet issu de l'eau, un murmure bruyant, le trouble revient. Mon reflet issu de l'eau, un murmure bruyant, le trouble revient.
Emma Grunenwald. Les mains de ma mère posées sur mon front, je souffre. Les mains de ma mère posées sur mon front, je souffre.
Mère Majo Quentin. La cloche sonne, les portes claquent, une journée démarre. La cloche sonne, les portes claquent, Une journée démarre.
Antoine Borévo. Le bruit des baskets brise le silence, la rue se vide. Le bruit des baskets brise le silence, la rue se vide.
Maxence Didno Sabatier. Nature morte, une fleur qui revit, cycle de la vie. Nature morte, une fleur qui revit, cycle de la vie.
Logan Lécurier. Je m'isole dans la forêt, suivi je cours, mon pépé. Je m'isole dans la forêt, suivi je cours, mon pépé.
Léo Cabar, je ne trouve pas d'inspi, ça me gâche la vie, mon haïku est fini. Je ne trouve pas d'inspi, ça me gâche la vie, mon haïku est fini.
Laura Barré, je shoote dans un bout de pain, il est dur, il n'est pas de ce midi. Je shoote dans un bout de pain, il est dur, il n'est pas de ce midi.
Et voilà un grand bravo à cette classe de seconde du lycée Fulbert qui a bien travaillé, qui s'est prêté au jeu, qui n'a vraiment pas démérité. On espère qu'ils vont continuer sur leur lancée, qu'on les réentendra l'année prochaine dans l'émission La Route Inconnue. On écoute un peu de musique Shiekomori, musique japonaise bien évidemment, après cette séance de haïku. Le morceau s'intitule Midare. Shiekomori, la grande musicienne japonaise qui est à cheval entre tradition et modernité. C'est le moment ou jamais d'accueillir notre ami Claude Verset, dont c'est à présent la chronique mensuelle et la dernière chronique de l'année, je le rappelle, avant la reprise de La Route Inconnue au mois de septembre. Claude Verset.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Christophe. Changeons de ton, j'ai envie de dire en préambule à cette chronique. En me retournant en effet sur mes précédentes interventions, je m'aperçois que les circonstances, les publications qui m'ont paru les plus importantes, m'ont entraîné à mettre en valeur une poésie d'urgence et d'intervention. Je pense particulièrement à l'ouvrage de Ryoshi Wago, le poète de Fukushima, jet de poèmes, et celui de Laurent Grisel, Climat, dont je parlais le mois dernier. Pour ce qui est la dernière chronique de cette année radiophonique, je vais en prendre le contre-pied et saluer le dernier livre d'un maître de l'humour en poésie, Jean-Pierre Georges, poète que je suis avec attention depuis son livre « Je m'ennuie sur terre ».« Je m'ennuie sur terre », tout un programme, n'est-ce pas ? Livre paru en 1996 au Des Bleus et qu'on trouve encore, je le signale, distribué par les éditions Éclat d'encre. Son dernier livre, paru quant à lui aux éditions Tarabuste, s'intitule « Jamais mieux ». En fait, tout Jean-Pierre Georges est dans ces deux titres. « Je m'ennuie sur terre »,« Jamais mieux ». Il est dès lors tout à fait légitime de s'interroger. Comment peut-on s'intéresser durablement à un auteur qui cultive avec tant d'assiduité l'ennui ? D'où vient que le lecteur tire un plaisir à ces pages objectivement désespérantes, à se régaler, oui, à se régaler de l'insatisfaction permanente qui s'exprime. Ben, disons-le, parce que chacun d'entre nous reconnaît dans les propos de Jean-Pierre Georges, dans ses pensées, ses aphorismes, dans ses fragments de prose qui constituent aujourd'hui jamais mieux, les petites faiblesses, les petites lâchetés plus ou moins honteuses que d'ordinaire on dissimule à sa conscience. Et plus que du poète, c'est bien de nous-mêmes dont nous rions jaune le plus souvent. Tenez, cette pensée qui tombe à pic. Hier soir, il a suffi que 11 jeunes gars robustes et décidés passent 3 buts à l'Ukraine pour que je m'endorme soulagé et quasi heureux. Dans la série « Est-on peu de choses ?» Ou encore, pour rester en tout arbitraire, dans le sport. Un tout jeune coureur italien rivalise avec les meilleurs montagnards du Tour de France. Ça m'est égal. Qu'un jeune Français en fasse autant, et me voilà transporté. Revenons au quotidien, et à ce pessimisme fondamental qui est bien la marque de Jean-Pierre Georges. Il y a des centaines de centrales atomiques prêtes à exploser et des milliers d'intégristes prêts à les faire sauter et il faut s'en faire pour une petite douleur intercostale. Faut-il en rire ou en pleurer ? On sort d'un livre de Jean-Pierre Georges comme d'un film de Charlot. Heureux d'avoir souffert avec ce misérable, de s'être avec lui si bien sorti malgré tout des embûches de la vie. Et surtout, n'oublions pas d'éclater de rire, conseille-t-il à un malheureux solliciteur qu'il viendra brouer. La place du rire dans cette prose reste une fort sérieuse question que pour aujourd'hui je me contenterai de poser. Et je vous laisserai, lecteur et auditeur, la résoudre en lisant « Jamais mieux » de Jean-Pierre Georges aux éditions Tarabuste. Rue du Fort, 36170 Saint-Benoît-du-Sault, 15 euros. Et sur Internet, sur le site des éditions. Je vous salue et je vous souhaite à tous un bel été. Thank you.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc, je voulais vous parler du dernier livre de Michel Bourson qui est paru aux éditions Paysages intérieurs et qui s'appelle « Demeure de l'oubli ». Donc, Michel Bourson, c'est un poète qui s'interroge sur notre place dans le monde, sur le dire, la pensée, les mots. Il s'intéresse sur le présent, la transmission, le cycle de la vie. Et il y a le monde, il y a soi, tout comme il y a le corps et la tête. Et il nous dit par exemple, parfois une fenêtre s'ouvre en nous et nous voyons nos pensées changer de forme et les oiseaux jardiner le ciel. Alors il s'interroge sur les mots pour dire le nous et nos émotions au plus juste et sur le sens de ce qui nous entoure. Même si, comme il dit, plus on se questionne, plus le sens se dérobe. Parce que Michel Bourson, il réfléchit beaucoup tout au long du recueil. Il apporte aussi des éléments de réponse, il suggère. Il va petit à petit dans sa pensée et la développe au fil de l'ouvrage. Alors, il écrit « Chaque mot est posé sur la page et le fantôme d'une pensée ». Si Michel Bourson se questionne, il amène son lecteur à en faire de même. Et c'est en cela que le livre est une expérience unique, parce que le lecteur il prête attention à chaque phrase, il laisse chacune d'elles résonner en lui et apporter du sens à sa propre pensée, à ce qui nous entoure, à ce qui nous façonne. Lire Michel Bourson, c'est approcher aussi la métaphysique, essayer de dire ce que l'on ne peut nommer. L'homme, s'il est séparé du monde qui l'entoure, le corps l'est aussi, de la pensée. Penser, c'est aller au fond de soi, fouiller, questionner, chercher des yeux. Parfois, on croit approcher de quelques vérités, mais quelque chose toujours se dérobe dans la poésie de Michel Bourson. Comme si le poète tournait autour de la vérité sans jamais parvenir à l'atteindre. Et c'est tant mieux, parce que s'il l'atteignait, comment il écrirait? Il y a quelque chose tout près, mais on ne sait pas ce que l'on frôle, dit-il. Peut-être que, par notre présence, nous ignorons ce dont nous témoignons. Il dit aussi, on s'enracine dans la vie des autres, en ignorant toujours l'objet de notre attente. Alors, Michel Bourson, c'est une écriture de l'intérieur. Il donne pourtant l'impression que tout ce qui est autour prédomine. Il parle beaucoup de ciel, de paysages, d'arbres, d'insectes. Mais pourtant, c'est pour nous induire en erreur, parce que c'est bien de à l'intérieur que tout se passe avec sa poésie. Comme il le dit lui-même, nous ne pouvons jamais nous taire à l'intérieur. Puis, les dernières pages du recueil scotchent le lecteur. On ne s'y attend pas du tout au dénouement de ce livre, à l'impensable qui nous submerge et pour lequel aucun mot ne peut nous porter. Car il y a quel mot, effectivement, pourrait porter le fardeau que nous portons tous. Michel Bourson nous saisit. On sort de ce livre bousculé. Je voulais juste vous lire un extrait avant de vous quitter. Parfois, une fenêtre s'ouvre en nous, libère des ombres, semblables à celles de grands rapaces, que la terre absorbe. Quel mot conviendrait alors pour dire ce dans quoi on entre, sans fardeau, sans le sentiment de traîner les pieds derrière soi, ainsi, en levant la tête, nous voyons nos pensées changer de forme et les oiseaux jardiner le ciel. La tête n'est jamais levée vers le même ciel où ce qu'elle pense s'effiloche et se retire au loin. Elle s'efforce de tout ralentir, attend rarement ce qui lui vient. Ce qu'elle regarde désigne ce qu'elle cherche et souvent affronte. Dans la demeure de l'air, les mots qui lui viennent l'éclairent comme une lampe. Il y a bien un sens à tout ce qui nous entoure. Chaque chose nous parle à son contact et nous appelle. Mais plus on se questionne et plus le sens se dérobe, l'incompréhension nous devance. Tout se vide de tant de questions. Tout se remplit quand la tête vagabonde et ne laisse plus entrer les mots. Alors, la tête, lentement, peut accueillir le monde en elle, qui la berce ainsi qu'une jeune mère le fait avec son nourrisson. Donc voilà, c'était « Demeure de l'oubli » de Michel Bourson, paru aux éditions Paysages intérieurs. Je vous dis à très bientôt, au revoir.
bien, bonjour à tous et à toutes. On va parler encore de Marlène Tissot, qui est la grande découverte pour moi de cette année 2016, avec un titre qui était paru en 2013 aux éditions Le Citron Gare, un de ses minuscules éditeurs, Traction Brabant, c'est sa revue. Je vous invite à aller le rencontrer. Je vous donnerai le mail tout à l'heure. Et donc ce titre de Marlène Tissot, illustré par Somoto, c'est « Sous les fleurs de la tapisserie ». Est-ce qu'on guérit un jour de son enfance ? De nombreux poètes écrivent ainsi pour dire, comprendre, apprivoiser et, que sais-je, les cicatrices indélébiles que tes mots ont autrefois laissées sous ma peau, comme dit Marlène dans un poème. Ici, c'est surtout de la mer dont il s'agit. Certaines personnes demeurent par moments ou tout le temps cet enfant blessé, terrorisé. J'ai 7 ans pour l'éternité et je pleure des rivières. Une manière de résister au monde des grands, ce monde qui fige les rêves. Cette résistance au monde adulte et bien pensant, on la suit de poème en poème dans ce recueil. La lecture se tient en équilibre ainsi, comme sur un fil. C'est juste la frontière entre mon imagination et la réalité qui devient de plus en plus mince. On connaît tous, plus ou moins, cela. On se reconnaît alors dans ces brisures de miroir, ces instants fugitifs où l'on s'échappe, où l'on croit que, où on est ailleurs et autrement que son petit bout de gras quotidien. Une écriture fine, juste et précise, un livre qui a reçu un prix, le prix COPO, COPO 2015. C'est donc au Citron Gare, sous les fleurs de la tapisserie, lecitrongareédition.blogspot.fr pour ceux qui veulent découvrir ce petit éditeur et ce revuiste. Alors, quelques extraits de Sous les fleurs de la tapisserie. Le noir au fond des regards. À la moindre remontrance, à peine élève-t-on un peu la voix, quelle que soit la broutille que l'on me reproche, immédiatement, j'ai 7 ans. Mes fautes deviennent gigantesques, impardonnables. J'ai peur d'être puni. On dirait que j'ai 7 ans pour l'éternité et je pleure des rivières. Je m'enfuis à la nage parce que je n'ai simplement pas la force d'affronter le noir au fond des regards. Le grand. La force fragile des enfants. Leurs yeux immenses, ouverts, et cette petite détresse cachée sous l'insouciance lorsqu'ils devinent qu'un jour, ils feront partie de ce monde-là, le grand, celui qui fige les rêves si l'on n'y prend pas garde, celui qui ne comprenait pas. Il y a les jeunes qui n'aiment pas les vieux, et les vieux qui ne supportent pas les jeunes. Lui, il n'est pas encore vieux, mais il n'est plus très jeune et il ne comprend pas pourquoi les gens ont peur de ce qu'ils ne sont plus ou méprisent ce qu'ils finiront par devenir. Demain est une petite utopie quotidienne. Ce matin, tu fais semblant de dormir longtemps jusqu'à ce que tout le monde soit parti, jusqu'au retour du silence. Tu restes planqué, les couvertures jusqu'aux oreilles, comme un paysage effacé par la neige, comme des meubles de jardin rangés sous une bâche bleue pendant l'hiver, comme toutes ces choses qui attendent immobiles, sans avoir conscience ni du lendemain, ni de sa possible absence. Voilà, c'est Marlène Tissot, Sous les fleurs de la tapisserie, aux éditions Le Citron Gare, et je vous souhaite un bel été à tous. Au revoir. Breathe, breathe in the air. Don't be afraid to care. Leave, but don't leave me. Look around and choose your own ground. Smiles you give and tears you cry, and all you touch and all you see is all your life will.